voudrais, bon, ça de culture, qu'il y ait une participation entre tous. Dans tous les quartiers, on fasse quelque chose.
degrés nord, ne cherchez pas sur la boussole ou le compas, ce cap n'est pas destiné aux navires, ni à une quelconque expédition au-delà du cercle polaire. Mais si votre GPS ne sait qu'en faire, votre radio, elle, y reconnaîtra sa fréquence baladeuse, le 888 de la grenouille qui s'est orienté au nord de Marseille. Marseille sonore de son nord et vous le fait entendre à travers une série de projets de création et de rencontres publiques orchestrés par l'outil commun. Cet outil, il est commun à 5 structures culturelles implantées dans les quartiers nord de Marseille, la Cité des Arts de la Rue, la Gare Franche, les Arts à Part, Lieux Publics et le Merlan, qui à travers cet outil mutualisent leurs expériences et font circuler leur public. À l'invitation de l'outil commun, la grenouille a quitté son nénuphar pour sillonner le Merlan, le Plan d'Ao, les Égalades, Saint-Antoine, Saint-André, le grand Saint-Barthélemy, tous les saints d'un paradis bien réel, un Éden sauvage traversé d'autoroutes juchées sur un nuage de béton, un paradis où les humains vont et viennent, d'où qu'ils soient et où ils sont chez eux. Le paradis, mais aussi l'envers du décor, les enclaves, les frictions, les exclusions, l'économie qui bat de l'aile et le sens si particulier qu'a le mot « mixité » dans la bouche d'un promoteur. 888 degrés nord, un plateau en ouverture de cette thématique antenne où nous allons vous donner à entendre chaque jour de cette semaine, à 14h30, les réalisations des artistes, documentaristes et journalistes de la Grenouille. Un plateau pour mieux situer ce projet, ses territoires, ses trajectoires, en compagnie d'Antea Aupin, qui a participé avec d'autres jeunes à un atelier de journalisme participatif mené par Anouk Bâtard pour une émission sur la mixité dans l'avenue de Saint-Antoine. Gwenaël Groussard, auteur avec Fabrice Lextrait, et Marie Van Ham d'une nouvelle époque de l'action culturelle. C'est un rapport qui était publié en 2001 et qui est actuellement administratrice du Cosmos Collège à la Gare Franche. Pascal Raoust, qui travaille pour la direction de la politique de la ville, autrefois dans la mission Centre-ville de Marseille et aujourd'hui sur le littoral nord. Claude Renard Chapiro, qui travaillait jusqu'à très récemment pour l'Institut des villes, un organisme de réflexion sur les politiques urbaines, où elle s'est particulièrement intéressée aux nouveaux territoires de l'art. Fabienne Rouet, de l'équipe de Les Arts à Part, qui développe une action culturelle de proximité dans les quartiers nord, et Christophe Modica, artiste sonore, qui a participé à cet ensemble de projets intitulé 888 degrés nord. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Je vous propose qu'on commence par ouvrir cette boîte à outils et à faire l'inventaire de cet outil commun. Fabienne, Gwen, comment est né l'outil commun ? Gwen.
L'outil commun est né il y a à peu près 2 ans, d'une suite d'essais, de mise au travail, de projets. Il y avait notamment au départ les Arts à Part et Cosmos Collège qui travaillaient avec des centres sociaux à réfléchir à la manière d'aborder la question culturelle de manière commune sur des territoires communs. Et puis progressivement ça s'est élargi. Le Théâtre du Merlan, la Cité des Arts de la Rue et Lieu Public, qui était là non, depuis le départ aussi. Et voilà comment, au final, on se retrouve une petite dizaine de membres de 5 équipes de structures culturelles des quartiers nord, à partir d'un constat semblable, c'est-à-dire la nécessité de croiser nos expériences et nos pratiques professionnelles. La nécessité également de croiser une appréhension commune de nos territoires, une manière commune de les voir et d'y travailler. Et notamment, je pense que, pour ce qui concerne la Gare Franche, nous avons le sentiment très fortement d'un manque de visibilité de nos structures dans ces quartiers nord qui sont une ville en soi, c'est une population gigantesque. Et donc, comment travailler au sein d'une si grande diversité, richesse culturelle de cette ville que forment les quartiers nord, comment travailler à amener une problématique commune autour de cette question culturelle. Voilà, donc c'est cette question-là, je pense, qui est au cœur de notre outil commun, qui a pour objectif, bien évidemment, de s'élargir, mais qui, pour l'instant, en tout cas, forge une manière de voir en commun.
Fabienne, tu partages avec Gwen ce sentiment d'un manque de visibilité de ces structures ?
Absolument, absolument. C'est vrai que dans l'outil commun, on est dans le Merlan 13-14, la gare Franche le 15e, lieu public Saint-André, les Égalades avec la Cité des Arts de la rue. On est tous assez éloignés et l'idée étant de se rapprocher et surtout de travailler sur la mobilité des publics. Puisque tous et chacun, nous travaillons avec des personnes des quartiers nord. Et en fait, on s'est aperçu que nous-mêmes, nous étions enclavés et les publics, bien sûr, aussi. Donc ça, c'est aussi un grand sujet, même un des sujets principaux de l'outil commun.
Cet outil, c'est donc à la fois un désir et une nécessité.
Oui, c'est une nécessité absolue de considérer autrement notre manière de travailler, c'est-à-dire quelle place a la culture dans la construction de la ville, dans son développement, et comment est-ce qu'on inscrit cette question-là, qui est notre question commune, dans un développement de nos territoires, dans l'aménagement du territoire, donc au cœur d'un ensemble de politiques publiques et au cœur d'un ensemble d'habitants. Enfin voilà, comment est-ce que tout ça se met au travail collectivement ?
Alors je crois qu'une des originalités de cet outil commun, c'est que il n'émane pas d'une décision de la direction de ces structures, mais plutôt des personnels de ces structures. C'est assez original ça.
En fait, je pense que ça dépend vraiment justement des structures et de leur taille et de leur nécessité. Je pense qu'on n'est pas tous dans l'outil commun pour les mêmes raisons. Par exemple, pour ce qui concerne la gare Franche, cet outil commun est une nécessité parce qu'elle permet à la gare Franche de s'inscrire dans un maillage culturel territorial qui est une force et qui représente un certain nombre d'atouts, c'est-à-dire une capacité de production. Comment accueillir un artiste dans ses territoires, en résidence, de manière plus collective, c'est plus intéressant. Ensuite, comment s'adresser à un public large, le plus large possible, le plus représentatif possible de ces immenses quartiers nord. Donc il y a forcément une association nécessaire pour que chacune de nos actions soit extrêmement visible et partagée dans l'ensemble de ces quartiers auprès des populations.
Fabienne, on est bien d'accord, cet outil commun, c'est tout sauf un cartel des structures culturelles dans les quartiers nord.
Absolument. Je voulais citer un exemple qui me venait à la tête maintenant tout de suite. Nous avons fait en 2008, au regard de nos différentes manifestations, Merlan, lieu public, gare Franche et les arts à part, nous avons travaillé sur de la préfiguration que nous avons mis en place dans les quartiers et nous avons des préfigurations, ce qu'on appelait aussi des... j'ai perdu le terme, des préalables, voilà. Nous avons lancé des préalables pour pouvoir rencontrer les publics avant nos différents événements et nous avons pu imaginer et voire même palper un petit peu les plus qu'on pouvait apporter auprès des publics et auprès de nos quatre structures.
Alors une des premières réalisations, une des premières productions de cet outil commun, c'est d'inviter Grenouille 888 pour ce projet 888 degrés nord. Alors pourquoi ce choix de Grenouille ? Fabienne ou
Pardon,
Gwenaëlle ?
Gwenaëlle, vas-y. J'étais...
Gwen.
Pourquoi ce choix de Radio Grenouille ? Parce que d'une part, on avait besoin d'un état des lieux. Et on avait besoin dans quel quartier travaillons-nous, sur quel territoire, comment les faire connaître déjà au sein de l'outil commun les uns aux autres. Et puis surtout, Radio Grenouille, nous travaillons tous avec l'équipe de Radio Grenouille d'ores et déjà. Et on sait aussi que Radio Grenouille est très présente dans les quartiers nord, a déjà beaucoup... circulé, enregistré, s'est fait beaucoup l'écho du développement de la ville, du monde associatif. Et ça nous paraissait vraiment intéressant de travailler avec Radio Grenouille dans cette mesure-là. C'est-à-dire que d'une part, on pouvait avoir avec Radio Grenouille démarche passionnante en termes de création radiophonique et sonore. Et d'autre part, on avait, à travers la démarche journalistique de Radio Grenouille, une mise en partage avec nos voisins d'une problématique commune. C'était une matière intéressante à mettre au travail ensemble. Et d'ailleurs, qui, de mon point de vue, est une entrée en matière vraiment, vraiment passionnante. C'est-à-dire que là, le résultat de Radio Grenouille fait émerger de nombreuses paroles d'habitants sur leur manière de voir la culture, sur leur propre culture, sur leur manière de voir nos actions et sur aussi la manière dont nos territoires fonctionnent les uns avec les autres ou pas.
C'est en effet Grenouille, aussi bien comme média que comme médium, et en tout cas là en l'occurrence notamment comme vivier d'auteurs et de regards sensibles sur ces quartiers qui ne le sont pas moins sensibles. Pascal Ragouste, comment est-ce que tu perçois toi cette initiative? Je rappelle que tu es coordinateur de la politique de la ville pour les quartiers du littoral nord, c'est ça?
Oui, sur la fonction, c'est un peu compliqué. Je suis chef de projet sur un des territoires du 15e, 16e arrondissement. Mais je suis aussi référent culture. On a une entrée comme ça maintenant, qui est très intéressante d'ailleurs. Je suis référent culture à l'échelle de ce territoire qu'on appelle, nous, Littoral Nord. Et donc c'est à ce titre-là que j'ai rapidement, l'outil commun s'est mis en place à peu près à la même époque que je suis arrivé sur ce territoire. Et donc c'était une chance en tout cas pour moi, puisque j'ai rencontré d'un coup, pas tous les acteurs culturels du territoire, mais en tout cas les habitants culturels de ce territoire qui se préoccupaient à un moment donné de leur manière d'habiter. Moi j'appelle plutôt ça comme ça, de leur manière d'habiter le territoire. Et donc de leur relation aux autres. Pour moi, moi je me perçois comme un développeur local. Enfin, c'était un peu du pain béni que de trouver cette interface, cette réactivité, ce dialogue avec... en particulier des professionnels. Moi, je trouve très particulier et très intéressant la démarche aussi. C'est vrai que, pour Fabienne, qui est à la fois directrice de sa structure et
Les Arapart, on le rappelle.
Oui, Les Arapart, qui est à la fois directrice intervenante. Les autres participants à l'outil commun sont des salariés, des travailleurs de la des structures. Je sais pas, je m'explique pas très bien, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce sont des vrais habitants. Il y a une notion comme ça d'habiter. Enfin, Gwen, je pense qu'elle habite mieux elle habite différemment le territoire que son boss.
Alors sur ces différentes manières d'habiter les territoires, tu étais autrefois, enfin ton secteur d'activité c'était le centre-ville de Marseille. Est-ce que tu as l'impression qu'on habite les quartiers nord de Marseille différemment que l'on habite le centre?
Oui, on les habite totalement différemment. On les habite différemment, mais comme on habite tous les territoires d'une manière différente. Je pense que on les subit à peu près de la même manière. On subit les dysfonctionnements des territoires de la même manière. Et sur la question des publics, qui était un peu la question sur laquelle l'outil commun s'est réuni, c'est assez intéressant de voir les différences qu'on peut avoir d'approche sur cette territoire. Sur le centre-ville de Marseille, où il y a foisonnement de d'activités, d'offres culturelles, etc. Il y a une vraie problématique liée à l'accès à tous les dispositifs qui existent et tout ça. Sur les quartiers nord, il me semble qu'il y a une pratique complètement différente des choses, c'est-à-dire que du fait de la de l'étendue des territoires, de sa diversité aussi, il y a une espèce de pratique culturelle qui est beaucoup plus dans la proximité. Dans les cités, moi je bosse sur la solidarité, sur la Savine, il y a de la pratique culturelle, de la pratique artistique qui est construite, qui fait du bien. On le retrouve pas du tout sur le centre-ville parce que la manière d'habiter le territoire est complètement différente.
Alors, on l'évoquait, une des raisons d'être de cet outil commun, c'est de brasser les publics, de favoriser la circulation des publics. Mais l'autre raison d'être de cet outil commun, c'est aussi de mutualiser des expériences. Mutualiser, nous dit-on sans cesse en ce moment. Mutualiser pourquoi, au fond, mais aussi pour pouvoir résister mieux et ensemble, unis, à une certaine difficulté économique, à une crise qui est assez globale, mais qui touche tout particulièrement le secteur de la culture. On voit quand même le montant des subventions allouées régulièrement baisser. Cette mutualisation, c'est aussi une manière d'être mieux armé contre les difficultés aujourd'hui dans le secteur de la culture, Pascal.
Oui, c'est pas l'intérêt premier que j'y vois, moi, mais c'est vrai que pour tous les à tous les niveaux du réseau des acteurs sociaux, l'idée de mutualisation, elle est primordiale aujourd'hui pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons d'approche du territoire ensemble, quoi, c'est-à-dire de partager les difficultés qu'on a à habiter, quels que soient les types d'habitants ou de manière d'habiter, de mettre en commun ces problématiques pour essayer de résoudre ensemble, petit à petit, de tisser une nouvelle manière d'habiter, en tout cas plus confortable pour les uns et les autres, l'habitant d'une cité comme l'habitant d'un espace, d'un lieu culturel.
Et on rappelle à cette occasion que la mission de l'État et des collectivités, c'est d'homogénéiser l'offre culturelle sur l'ensemble des territoires, tous les territoires. C'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à un service public de la culture, si tant soit que le service public ait encore aujourd'hui beaucoup d'audience et beaucoup d'avenir. J'aimerais me tourner maintenant vers Antea. Merci encore beaucoup à toi de nous avoir rejoints sur ce plateau entre les cours du matin et les cours de l'après-midi au collège. Antea, est-ce que tu as l'impression que dans ces quartiers nord où tu habites, on peut voir des spectacles, on peut sortir. Est-ce qu'il y a autant d'offres culturelles que dans le centre-ville ou les quartiers sud de Marseille?
Eh bien, nous, dans notre quartier, on a la possibilité d'aller au Théâtre du Merlin, parce que le Théâtre du Merlin est juste en face du quartier. Et puis, il y a une association qui nous y amène. Il y a la DAP 13 et il y a le Centre Social Agora. Ils nous font faire des sorties, en fait. Et c'est grâce à eux qu'on a les possibilités d'aller là-bas. Sinon, on n'a pas vraiment de propositions ni d'offres que comparer dans les quartiers sud ou autres.
Ça tient vraiment à la dynamique d'une salle de spectacle, d'un programmateur, que de venir au fond vous chercher, ou en tout cas d'utiliser des structures relais. On en parlera tout à l'heure de ces structures relais. À ton avis, Antea, qu'est-ce qui manque dans ces quartiers nord pour qu'il y ait autant de vie que dans le centre-ville? Qu'est-ce qui te manquerait, toi, particulièrement?
Bien...
Une salle de concert, un cinéma, qu'est-ce que tu voudrais particulièrement voir arriver?
Dans notre quartier, à la Busserine, il y a déjà une salle qui s'appelle l'espace culturel. Ils proposent des spectacles, parfois on peut faire des séances de cinéma. Donc il y a beaucoup de structures sociales dans le quartier qui nous donnent la possibilité de faire ça. Sinon, dans les autres quartiers, on voit rarement des choses comme ça.
On voit rarement des choses comme ça, effectivement. Il y a quand même encore des différences entre les quartiers de Marseille à propos de l'offre culturelle. Je crois que on peut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est aussi une réalité. Claude Renard, dans les années 80-90, de nombreuses structures culturelles se regroupaient pour occuper des lieux abandonnés. Et on en sait quelque chose ici à la friche La Belle de Mai, puisque ces friches se portent aujourd'hui le nom de nouveaux territoires de l'art. Aujourd'hui, il se crée toujours de nouveaux lieux, mais on a parfois l'impression que ces nouveaux lieux, ils sont un peu plus modestes, en taille en tout cas, peut-être aussi un peu plus individualistes, un peu moins collectifs. Est-ce qu'à ton avis, c'est un signe des temps ?
Je suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse. Je pense qu'effectivement, la nécessité pour des artistes d'avoir des lieux pour travailler, parce que c'est ça qui caractérise les nouveaux territoires de l'art, qui n'ont de nouveau que leur capacité à mettre en mouvement des nouvelles expériences, des nouveaux outils communs, de mutualiser leurs compétences artistiques. C'est ça qui est nouveau et toujours autrement et autre part recommencer. Donc moi, ce que je ne pense pas, en tout cas depuis un an où je suis partie de la mission Nouveaux Territoires de l'Art, qu'il y a un profond changement et qu'il n'y a plus ce désir utopique de créer, comme disait Virilliot ici à la Friche en 2002, de la commune, de la communauté, du commun dans la ville. Je pense que c'est toujours au cœur des préoccupations et ce désir de travail des artistes qui ne met pas l'art dans une situation démiurgique d'artiste, mais dans une situation de porosité avec le reste de la société, de partage. Certains disent que ces lieux, ces espaces sont passés de l'ouvrier à l'œuvrier et que ces œuvriers sont des désœuvrés dans le sens où ils veulent plus donner à l'œuvre une forme, spéciale et particulière à un moment donné de sa diffusion, mais qu'ils veulent partager les moments très difficiles et à risque de sa propre création de l'œuvre.
On se retrouve dans un instant pour parler des territoires de l'action culturelle après un petit extrait d'un concert de son de ville donné par Christophe Modica, un artiste sonore qui fait partie du projet 888 degrés Nord.
Je vais vous demander avant que vous rentrez à la maison si vous voulez bien fermer les yeux et écouter bien ce qui se passe.
On écoutait un extrait d'un concert de son de ville de Christophe Modica. Christophe, peut-être quelques mots sur ta participation à ce projet 888 degrés Nord et cet outil commun. Quel regard tu portes sur lui ?
Alors moi, ce que j'ai fait dans l'outil commun, j'ai réalisé des balades sonores. C'est-à-dire que j'ai promené des gens avec des casques sur les oreilles et moi, je faisais des prises de son. Donc je leur faisais écouter leur environnement en fait, l'endroit où ils vivent, l'endroit qu'ils habitent, mais avec une nouvelle écoute, une nouvelle approche de ce territoire.
Pour toi, ces territoires, c'était pas non plus complètement une découverte, parce qu'il faut dire que tu y vis quotidiennement.
Oui, moi je vis à Saint-Louis dans les quartiers nord, donc je vivais avant au Merlan, et j'y travaille énormément, donc c'est des quartiers que je connais. Ce que je voudrais dire par rapport à tout ce que j'ai un petit peu entendu jusqu'à maintenant, c'est tout d'abord que parfois on a l'impression quand on parle des quartiers nord qu'on parle d'un seul territoire. Or, c'est pas le cas, il y a autant de territoires qu'il y a de quartiers, avec des problématiques très différentes, des ambiances très différentes, des gens très différents. Et voilà, et moi c'est ce qu'on retrouve aussi dans le travail que j'ai fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce sont des sons et une écoute qui est adaptée à chaque lieu, qui a sa particularité et qui n'est pas les quartiers nord, mais qui est l'avenue Saint-Antoine, le Plan d'Ao, la Busserine, enfin à chaque fois chaque lieu est un lieu particulier.
Antea, tu es d'accord avec ce que dit Christophe? Il n'y a pas les quartiers nord, ça veut rien dire en fait, quartier nord, il y a plein d'endroits très très différents dans ces quartiers.
C'est exact, il y a beaucoup d'endroits qui sont différents, beaucoup de personnes différentes. Les manières de vivre changent, ça varie selon les quartiers. Et puis.
Mais et est-ce que ces bouts de quartiers, ils sont isolés les uns des autres?
Non,
ou est-ce qu'il y a
tout.
Des circulations?
Non, pas du tout, il y a beaucoup de circulations. Il y a beaucoup de quartiers qui s'entendent bien, de partout. On connaît beaucoup d'endroits, et on connaît beaucoup de gens, et on peut facilement s'entendre avec les gens d'autres quartiers.
Gwenaël, tu voulais réagir, je crois?
Oui, moi je pense que les quartiers nord ne font pas ville, justement, et je suis tout à fait d'accord avec ça, que les circulations entre les quartiers sont souvent étranges, soit uniquement possibles en voiture, soit sont pratiquées par des sentiers créés par l'usage. Mais c'est vrai que la question de l'espace public, de la manière dont on circule entre les quartiers, ce sont pas des choses qui fondent la manière de construire de la ville dans les quartiers nord. Et moi, je pense que ça, c'est une des problématiques de l'outil commun, c'est-à-dire comment l'outil commun s'inscrit dans cet éclectisme culturel des quartiers nord, comment l'outil commun s'inscrit dans cette ville qui ne fait pas ville et qui est en pleine transformation et en pleine évolution. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que la démarche de la radio nous intéresse beaucoup. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on va faire appel à un géographe là prochainement pour travailler sur la manière dont on est nous-mêmes inscrits dans une ville et dans la manière dont on peut être signalé, signalisé, dont on peut être accessible ou pas. Et voilà, c'est important.
Intéressante démarche, effectivement, que de s'interroger sur la géographie sociale, la géographie culturelle de la ville, parfois une sorte de psychogéographie aussi, parce qu'il y a des frontières qui sont réelles, tangibles, et il y en a d'autres qui sont plus invisibles, qui sont moins faciles à percevoir. Peut-être Claude Renard, je crois que tu voulais intervenir sur cette notion.
Oui, je voulais intervenir surtout parce que ce que vient de dire Gwenaël, ça me fait penser que peut-être dans le mot NTA, c'est pas un label hein, dès le départ, et que toutes les expériences, même à l'époque des années antérieures, ont toute une particularité, une différence. Elles occupent, ce sont des outils communs mis à disposition. Et pour moi, c'est des produits comme l'outil commun que je découvre sur Marseille. Ce sont des produits de haute nécessité, comme diraient effectivement certains à la Guadeloupe, notamment récemment, glissant et autres, ce sont vraiment des produits de haute nécessité et les NTA dans leur différence, c'est ça.
Pascal Raoust, sur cette idée de géographie culturelle de la ville, est-ce que tu perçois ces zones différentes, ces frontières invisibles?
Oui, tout à fait, pas forcément lié à la question de la géographie culturelle, mais de la manière d'habiter les territoires qui correspondent chacun à une géographie particulière. Et c'est vrai que sur les quartiers nord, ce qu'on appelle les quartiers nord, il y a une vraie diversité de manières d'habiter, de circuler, etc. Ça vient aussi un peu de la manière dont s'est construite la ville, c'est-à-dire que elle ne s'est certainement pas construite à cet endroit-là de manière très très cohérente, définie, construite en termes de réflexion urbaine, etc., etc. Donc ça vient sans doute pour beaucoup de ça. Mais oui, bien sûr, la question, la question de la géographie, de la manière dont les choses fonctionnent ensemble, dans la manière dont les uns et les autres se dialoguent, dans les quartiers dialoguent, c'est ça que j'appelle la géographie, en tout cas à l'échelle d'une ville, c'est très intéressant, c'est fondamental. Donc c'est une question sur laquelle moi j'accompagne beaucoup la réflexion de l'outil commun sur cette question-là, quoi.
Où l'on se rend compte que l'action de proximité, ça n'est pas de rester figé sur un territoire délimité, mais au contraire de favoriser des trajectoires, de favoriser des désenclavements, de permettre à tous de pouvoir sortir et de pouvoir circuler dans la ville. Antea, je crois que c'est ce que tu as fait dans le cadre du projet que tu as mené avec Anouk et d'autres jeunes. Il s'agissait d'aller explorer l'avenue de Saint-Antoine, de s'y interroger sur la mixité. À cette occasion, tu as rencontré plein de gens, des gens que tu connaissais pas. Comment s'est passée la rencontre ? C'était facile ? C'était difficile ?
Eh bien, pour rencontrer les gens, le moyen le plus facile pour avoir de bons contacts, de bons rapports, c'est arriver avec le sourire. Arriver, se présenter, et là, commencer à faire, on va dire, un petit peu connaissance. Essayer de poser des questions, de voir comment les poser pour qu'ils répondent plus facilement, d'essayer à les faire parler sur eux, sur ce qu'ils font, sur pour eux, qu'est-ce que représente cette avenue, comment elle a changé, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle a empiré, de connaître un peu tout ce qui se passe autour d'eux et les connaître eux-mêmes.
Et est-ce que tu as aussi rencontré des gens qui t'ont, malgré ton très beau sourire, qui t'ont claqué la porte au nez ? C'est arrivé ?
Personnellement, avec la jeune fille avec qui j'étais, ça ne nous est pas arrivé. Mais l'autre groupe, ils ont beaucoup eu de refus, parce qu'ils arrivaient en fait dans un petit monde qu'ils ne connaissaient pas, et ils avaient une appréhension. Donc ils arrivaient un peu déjà avec un petit malaise de rencontrer des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et là, ça a engendré des petits refus.
Désenclaver, faire circuler les publics, faire découvrir d'autres gens, des gens à qui on ne penserait pas immédiatement parler, à qui on ne penserait pas s'adresser, c'était une des idées aussi de ce projet, une des idées favorisées par l'outil commun. Fabienne, Gwen, cette circulation, elle dépend quand même d'une chose qui est concrète mais indispensable, c'est la possibilité de pouvoir circuler dans la ville. L'action culturelle, elle est aussi tributaire des transports publics, de leur réalité. Fabienne ?
Oui, c'est vrai. À la fois, effectivement, on s'est posé la question des transports, parce que on a une autoroute qui passe en plein milieu des 15 et 16e arrondissements. On a réfléchi par rapport à nos projets, festivals, spectacles ou autres, comment faciliter le transport pour les personnes qui s'avinent, qui estaquent, qui sont un petit peu coupées des uns des autres par rapport à cette autoroute. Donc on a pensé au bus. À la fois, on a eu une expérience qui n'était pas forcément... à la fois, c'était une expérience, les expériences servent toujours. Donc on a mis en place des bus pour donc nos différentes manifestations, et on s'est aperçu que finalement, c'était pas que les déplacements, c'était pas, le frein n'était pas que là. Il y avait aussi un travail plus proche à faire. Enfin, on y réfléchit. Enfin, ça nous a permis d'avancer. C'est les transports, c'est un faux problème finalement. Gwen, qu'est-ce que t'en penses ?
Est-ce qu'une des pistes, peut-être avant que Gwen réponde, est-ce qu'une des pistes de cet outil commun, ça ne serait pas de se mobiliser ensemble pour s'adresser à la RTM, Régie des Transports Marseillais, de manière à ce qu'elle accompagne peut-être un peu mieux vos propositions, vos festivals et vos créations ? Gwen ?
Oui, bien sûr, ça peut être une des pistes, et enfin, ça fait partie en tout cas de la manière dont on peut contribuer au sein d'un ensemble d'acteurs de la ville à améliorer le cadre de vie et tout ça. Maintenant, moi je pense que ça nous a fait prendre conscience de plusieurs choses aussi, ce projet de bus. D'une part, qui faisait suite à beaucoup d'actions de sensibilisation et donc qui était quand même extrêmement travaillé aussi. C'est-à-dire que le problème des transports dans les quartiers nord de Marseille, c'est un vrai problème. Mais pour ce qui concerne l'accès à la culture, c'est plutôt l'usage, je pense, le manque d'usage, qui est le véritable problème pour nous, plus que la réalité des transports. Donc c'est vraiment important. Ce que ça démontre aussi, c'est que notre problématique aujourd'hui pour des structures culturelles ne peut plus être celle de l'élargissement des publics, de la démocratisation culturelle. C'est pas comme ça qu'on peut penser notre manière d'être, de fonctionner, de travailler dans une ville et d'être le plus largement ouvert. Je pense que notre manière de travailler doit être notre manière de nous inscrire dans le champ de la politique publique, dans le champ du développement urbain et au cœur d'un ensemble d'habitants, comme un habitant, comme disait Pascal Raoust exactement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, au même titre que l'ensemble des autres habitants, contribuer à améliorer le cadre de vie, à contribuer à fabriquer de la ville et du coup partager du sens commun avec les habitants et du coup aussi partager la question culturelle.
Christophe ?
Oui, je suis évidemment d'accord parce que, à mon avis, la question des bus est une fausse piste parce que les gens, de toute façon, s'ils ont vraiment envie d'y aller, ils trouveront toujours le moyen d'y aller. Antea pourra le dire. Et puis même les gens qui n'ont pas besoin de prendre de bus et qui sont très proches n'y vont pas. Donc de toute façon c'est une fausse piste et je crois que le problème vient d'une réelle fracture dans la pratique culturelle et qu'on retrouve évidemment dans les quartiers nord parce que ce sont avant d'être des quartiers nord ce sont des quartiers pauvres où vivent des gens pauvres et qui se sont complètement coupés de cette pratique culturelle.
Pascal.
Oui, alors il y a un véritable problème de transport, d'organisation du transport sur ce quartier, sur ces quartiers en particulier, et en particulier sur les à l'intérieur de ces quartiers-là, c'est-à-dire d'aller d'un bout à l'autre du quartier, des transports transversaux. Mais sur la question qui nous préoccupe, c'est pas la question des transports qui est la plus intéressante, c'est plutôt la question de la circulation des envies, de la circulation des besoins, de la circulation des esprits, de la question des portes ouvertes ou des portes fermées. et c'est pas une question de transport, ça. C'est une question d'avoir les moyens, d'avoir envie de quelque chose. La question des transports, c'est un aspect très très matériel sur lequel il faut se pencher parce que à un moment donné, il faut pas que ça soit un blocage aux envies, mais on n'en est pas là, je crois, sur ce territoire-là. Mais en fait, pour avoir bossé sur le centre-ville, c'est la même préoccupation. C'est une question de circulation des choses.
Gwen.
Oui, moi je souhaitais également dire une chose qui me semble fondamentale et nécessaire à dire là, c'est qu'on n'est pas détenteur de la culture non plus. La culture, elle est partout, tout le monde l'a, et elle est très diverse, très variée, très riche dans les quartiers nord. Et donc c'est surtout cette fracture culturelle, c'est surtout la question de comment faire du sens commun, comment arriver à partager une problématique culturelle commune, surtout à l'aube de Marseille Capitale Culturelle 2013. Enfin voilà, je pense que c'est ça aussi qui nous importe et dans une représentativité aussi de la richesse culturelle des habitants des quartiers nord.
En attendant 2013, on écoute quelques instants de musique. On se retrouve juste après pour parler des projets depuis 188 degrés nord.
Je vous propose de fermer les yeux quelques instants et de faire écouter quelque chose. vais vous demander de fermer les yeux. Je vais vous faire écouter quelque chose.
Degrés Nord, des projets et des rendez-vous, deux rendez-vous déjà réalisés et puis deux autres qui sont à venir. Fabienne Gwenaël, peut-être quelques mots sur les projets qui ont été proposés par Grenouille dans le cadre de 888 degrés Nord et puis ces moments de rencontre. Votre regard, Fabienne.
Alors, tout d'abord, dans le cadre de 888.Nord, Degrés Nord, hier, aux Égalades, nous avions un rendez-vous public à 17h qu'on a annulé pour cause d'intempéries, mais
reporté
absolument, au 22 avril à 17h, au mercredi 22 avril à 17h. Voilà, tout d'abord pour m'excuser, puisque nous avons fait confiance à la météo et finalement la pluie n'est pas venue. C'est bien la première fois que je faisais la danse de la pluie pour qu'elle vienne. D'autre part, oui, donc ce rendez-vous du 22 avril, nous pourrons écouter la balade sonore de Christophe Modica, qui s'est baladé pendant de longs mois, dans de longues semaines, on va dire, hein, plusieurs semaines, environ pas loin de 2 mois, dans le quartier des Égalades, dans la cité des Créneaux, etc., etc. Il nous a permis de découvrir, d'approcher d'un peu plus près les habitants. Bien que les Arapars, nous sommes implantés à la César Rue depuis 2002, on connaît pas mal d'habitants des Égalades. À la fois, on a pu avoir un autre regard grâce à Christophe. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et surtout, merci Christophe, parce que tu as une sensibilité et un professionnalisme auprès des habitants qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touché.
Merci Fabienne.
Ensuite, ce jour-là, donc le 22, sur le plateau des Égalades, nous aurons également Pascal Messaoudi avec sa petite guitoune, avec le cabinet des doléances culturelles. Donc Christophe a interrogé des personnes des Égalades. Pascal Messaoudi a interrogé des personnes de la cité des Égalades. En préalable du festival Petit Art Petit et lors de Petit Art Petit, donc on pourra écouter tous ces sons et tous ces reportages et l'avis des personnes interrogées sur la culture, sur différents projets, Marseille Provence 2013, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. C'est assez riche. Et puis bien sûr Xavier et Christine Breton qui ont traversé le territoire des Égalades plutôt en termes historiques. Et Xavier, en fait, tu peux en parler mieux que moi.
Essayer de raconter l'histoire qui ne s'écrit pas, une histoire qui est beaucoup plus sur un mode oral, mais on aura l'occasion tout au long de cette semaine d'en reparler. Là, je voudrais qu'on soit plutôt sur la globalité des projets. Il y a un équilibre à trouver quand on fait une proposition culturelle. C'est l'équilibre entre quelque chose qui est de la création et pas de la récréation, de l'entertainment, et en même temps quelque chose qui doit être accessible à un très large public. C'est quelque chose, j'imagine, à quoi vous vous confrontez tout le temps, tous les jours, cette balance entre quelque chose qui doit vraiment être créatif et en même temps qui doit être accessible. Fabienne.
Oui, qui doit être créatif, bien sûr, puisque on travaille de très près avec les artistes, on travaille de très près avec la population. Donc la créativité, elle est là, mais il y a aussi le ça va beaucoup plus loin que ça. C'est connaître les gens, connaître une personne, d'où elle vient, sa culture, un regard sur son lieu de vie, un regard sur, par exemple, je peux prendre l'exemple de la cité Créneau, qui est dans le cadre d'un projet en rue. donc beaucoup de souffrance, etc. On a travaillé avec eux sur des ateliers d'écriture, il y a eu un journal moral de créer, etc. Donc c'est aussi se balancer dans la vie des gens, dans leurs problématiques, et partir avec eux sur un projet qui les emmènera à, sans doute à voir le présent, voir l'avenir autrement.
Gwen, on l'a évoqué tout à l'heure, ces projets, la manière dont ils sont reçus par les publics, elle dépend aussi très largement du dialogue permanent que vous entretenez dans ce dispositif Outils communs avec d'autres structures, d'autres associations qui font le relais en quelque sorte.
Oui, avec un ensemble vraiment de gens qui habitent et qui pratiquent le quartier. Moi, ce que j'ai envie de dire sur nos voisins qui viennent à la Gare Franche, c'est que avant de parler d'accessibilité d'une œuvre ou quoi que ce soit, ce sont des gens qui ont envie d'entrer, quoi, qui ont envie de venir parce qu'à un moment donné, on partage un moment ensemble. C'est aussi un moment de convivialité. Il se passe plein de choses à ce moment-là. Et ça se fait autour d'une proposition artistique. Mais enfin voilà, disons que ce qui construit un regard en commun, c'est aussi ce moment de convivialité. Et ça, c'est important, je pense. Ensuite, ce qui est aussi important, je pense, c'est que dans la résidence de Radio Grenouille, c'était toute l'équipe de Radio Grenouille qui était en résidence et donc aussi dans les quartiers et qui était avec nous ou sans nous. En train de rencontrer nos voisins, de discuter aussi du développement du quartier et de se mettre en contact avec nos partenaires, qu'ils soient centres sociaux, éducation, système éducatif, établissement scolaire ou les entrepreneurs voisins. Enfin, après, c'est un ensemble aussi de gens qui font la vie d'un quartier.
Christophe.
Oui, je voulais juste réagir sur l'accessibilité d'une œuvre, d'une pièce, d'une proposition culturelle, parce qu'à mon avis, c'est une question qui est pas primordiale dans le sens où il faut pas prendre les gens pour des idiots et ils savent très bien apprécier une chose qui peut paraître même inaccessible. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait en capacité d'être un public concerné et touché. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'intérêt, finalement, c'est pas de créer quelque chose d'accessible au public, mais c'est de créer l'envie d'être curieux. Voilà. Et lorsqu'on a cette envie d'être curieux, tout est accessible.
Tout est accessible, même l'avenir. On arrive bientôt au terme de cette émission. Juste pour conclure, quelques mots sur le futur d'Outils communs. Fabienne, Gwen, les projets à venir.
Bon, je pense que le futur de l'outil commun, c'est d'abord un bilan de Radio Grenouille. Moi, je suis super contente de cette très grande diversité de propositions qui mélangent de la création sonore et musicale, du journalisme, des radios-trottoirs, des interviews plus intimes avec des gens et qui représentent une vraie traversée de l'histoire qui ne s'écrit pas, comme tu dis Xavier, et aussi de la géographie qui ne s'écrit pas non plus d'ailleurs, semble-t-il, de nos quartiers. Et je pense que c'est déjà une base de travail très importante pour nous, qui doit donner lieu à de nombreuses discussions, à un partage le plus large possible avec le public. Et je pense que les quatre moments de restitution sont un moment important pour ça. Et puis d'autres projets, bien sûr, chaque année, nous l'espérons, en termes de résidence d'artistes ou d'équipes sur le terrain.
Prochain rendez-vous public, on le rappelle, c'est le 16 avril, c'est au Grand Saint-Barthélemy, et puis le 22 avril aux Égalades, si le temps le permet. Sur l'antenne de Grenouille, en tout cas, tous les jours jusqu'au 19 avril à 14h30, diffusion des documentaires et créations radio, suivie d'une discussion avec les auteurs et de quelques regards pertinents sur ces documents, des plateaux animés par Baptiste Lanaspez. Ainsi, demain à 14h30, on va à Saint-Antoine. Antea, juste deux mots comme ça pour nous dire ce qu'on va entendre, ce documentaire.
Alors, sur ce documentaire, vous allez découvrir l'avenue de Saint-Antoine, ses commerçants, la vie qui se passe là-bas. Vous allez découvrir les gens, vous allez découvrir le point de vue que ces personnes ont sur cette avenue et comment elle a évolué.
Merci à toi, Anthea Aupin, merci à Fabienne Rouet, merci à Claude Renard, merci à Pascal Raoust, merci à Christophe Modica et merci à Gwenaëlle Groussard. Tout le détail de la programmation est sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org. Merci aussi à Sébastien Gély qui a réalisé cette émission.
Il y a une participation entre tous. Dans tous les quartiers, on fasse quelque chose.